Dit mettant, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes qui nous regardent aussi au niveau de nos auditeurs. Ça fait plaisir, dit mettant, de vous retrouver sur cette nouvelle émission de Susbox.
Bonjour, ben merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là avec vous pour cette discussion.
Alors justement, cette discussion, elle va surtout commencer par traiter l'actualité, puisque là, il faut s'encourager pour suivre ce qui est en train de se passer, notamment en Iran ces derniers jours. Où d'un jour à l'autre, on passe de la troisième guerre mondiale déclarée où tout va éclater à la guerre est finie, tout va bien, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Donald Trump, comment vous suivez cette actualité? Est-ce qu'elle fait sens ou est-ce que c'est complètement débridé? Moi, des fois, j'ai l'impression que je comprends un petit peu les dynamiques qui se cachent derrière la pensée trumpiste et puis en fin de compte, j'en suis pas certain.
Bon, ben, moi non plus, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait déstabilisés de Donald Trump qui paraît tout à fait erratique. Je dirais quand même que c'est plutôt une impression de surface. Personnellement, je ne partage pas l'avis de ceux qui disent que Trump agit comme ça, complètement par caprice, sur coup de tête, au fond, sans aucun but, sans aucun objectif précis. Pour moi, Trump, et ça s'est vérifié pendant son premier mandat, agit de façon différente, évidemment, des présidents démocrates, type Obama, qui sont, ou même Biden. Biden, c'est encore un peu particulier parce il était sénile, au fond.
Ah,
Mais
complètement.
prenons le cas d'Obama, qui paraissent réagir rationnellement, mais dont les actes, finalement, sous une apparence rationnelle, sont pas meilleurs ni plus efficaces que ceux de Trump. L'action est différente. Pour moi, le point commun de tous les présidents américains, c'est qu'au fond, ils agissent pour maintenir la suprématie des États-Unis sur l'ensemble du monde. Que ce soit des présidents démocrates ou des présidents républicains, que ce soit des gens, un genre plutôt uberlu, type Trump, ou quelqu'un qui a l'air dit très cool, comme Obama, finalement, l'objectif de la politique est toujours le même, c'est comment s'assurer que les États-Unis, que la puissance américaine reste incontestée dans le monde et que, on va dire, le capitalisme américain ou la domination financière américaine continue à régner. C'est le seul objectif, finalement. Alors, il y a des nuances entre les présidents. Les démocrates, on le sait, sont plutôt anti-russes. Tandis que les républicains sont d'abord anti-chinois avant d'être anti-russes. C'est ce type de nuance-là, mais l'objectif profond reste le même. Voilà pour le schéma général, et je ne me suis jamais fait d'illusions sur Trump. Je me suis jamais, dès que Trump a été réélu, je me suis dit, bon, ben voilà, méfions-nous, parce que finalement, au-delà des aspects positifs qu'on peut trouver à sa politique, par exemple concernant le Covid, concernant certaines formes de retour à préservation de certaines libertés, etc. Au fond, la politique américaine restera assez semblable à ce qu'elle a été avant lui, quoi. Maintenant, si on revient à l'Iran, évidemment, cette frappe a surpris parce que la veille, il nous assurait encore qu'il allait prendre le temps de réfléchir et qu'il se donnait 15 jours avant de décider d'une frappe, alors qu'il l'a faite. Aussitôt qu'il avait dit ça, il a donné l'autorisation de la frappe. Pour moi, c'est typiquement du Trump, c'est-à-dire avec, je dis, cette apparence d'incohérence, alors qu'en réalité, je dis, son programme, pour moi, se poursuit assez logiquement. Voilà. Pour l'Iran, pourquoi aussi il est intervenu? Maintenant, si on rentre plutôt plus en détail dans ce qui s'est passé en Iran, c'est Netanyahou qui a pris l'initiative. C'est Israël, parce qu'Israël, on le sait, ça fait des années que le gouvernement israélien s'est fixé pour objectif d'attaquer l'Iran, de soumettre l'Iran, parce que c'est la dernière puissance du monde islamique qui résiste à Israël. Et donc, pour lui,
Avec
c'était
la Palestine.
avec les Palestiniens, naturellement, mais bon, entre-temps, ils ont été détruits pratiquement. Donc, la dernière puissance capable ou active, capable de s'opposer à Israël. Donc, ça devenait un objectif prioritaire pour lui, pour des raisons internes, de politique interne. Il s'agissait de détourner l'attention de l'opinion publique mondiale des massacres commis à Gaza, cette opinion publique commençait à devenir effervescente. Dans les pays européens, il commençait à y avoir une majorité de pays européens qui se distançaient de cette politique abominable. En Espagne, enfin plusieurs pays, en Norvège, etc., commençaient à prendre leur distance vis-à-vis d'Israël. Et puis les massacres devenaient par trop visibles. Donc, opération de diversion bien connue, on tape sur l'Iran pour cacher ce qu'on ne veut pas montrer, quoi. Mmh. Et puis en même temps, manière de préserver aussi son régime, son pouvoir, etc., en ramenant du soutien vis-à-vis d'Israël, soutien interne comme soutien externe. Voilà, ça c'est des explications, on va dire, locales. Mais pourquoi ce qui est intéressant, pourquoi les États-Unis sont entrés en lice? D'une part, parce qu'une partie de l'électorat évangéliste de Trump soutient de façon forcenée Israël. Donc, c'est une manière de montrer à ces gens-là que les promesses électorales de soutien conditionnel à Israël étaient réalisées. En même temps, ça divisait aussi son camp, puisqu'une partie de son camp, lui, est plutôt isolationniste et contre les interventions militaires étrangères. Mais pour ça aussi que ça n'a pas duré longtemps. C'était une frappe, on va dire, très limitée. Mais pour les États-Unis aussi, c'était un moyen d'essayer de casser au fond le régime des Mollahs, peut-être de provoquer une réaction, un changement de régime. On ne peut pas exclure ça. Puis il y a une autre dimension. Tout ça est assez connu. Il y a une autre dimension, à mon avis, qui a été très peu expliquée dans les médias occidentaux, c'est que les dégâts que les ripostes iraniennes ont provoqué en Israël ont été absolument gigantesques. Ça a été caché. Le gouvernement israélien a interdit aux journalistes de se rendre sur les lieux qui ont été des frappes, de constater les dégâts, de faire des reportages sur les dégâts qui ont été commis. Mais on sait, par les images qui circulent pas tellement en Occident, mais sur les autres réseaux sociaux ailleurs dans le monde, que des dégâts énormes ont été commis. Le centre de Weizmann, le centre de renseignement de l'armée, même on parle de la base de recherche nucléaire de Dimona, beaucoup d'autres, le siège de Microsoft en Israël. Microsoft, on sait, ne fait pas que des programmes, des logiciels Word, mais aussi de l'espionnage, aussi toute l'intelligence artificielle mise à disposition de l'armée. Donc des dégâts absolument considérables ont été provoqués à Tel Aviv, Haïfa, Beersheba, enfin de dizaines de... Et ça a complètement passé sous silence. C'était absolument pas prévu par Netanyahou au moment où il a commencé ses attaques. Parce qu'on sait que même si les Israéliens dominent complètement l'espace aérien iranien, eh bien, ils ne sont pas capables de poursuivre une attaque sur la longueur, sur la distance, à long terme. Ça va pendant quelques jours, ça ne va pas pendant quelques semaines. Surtout si la riposte iranienne est violente, précise et dévastatrice, comme ce fut le cas. Donc il fallait aussi trouver un moyen de mettre fin à cette guerre qui commençait à mal tourner pour Israël, même si la propagande nous dit l'inverse. Raison aussi peut-être pour laquelle les États-Unis sont intervenus de façon limitée en soutien à Israël. Et puis, troisième élément qui a aussi échappé à la vigilance soi-disant vigilance de nos médias, c'est qu'il y a eu quand même une intervention russe, probablement chinoise aussi, en faveur de l'apaisement. Si vous regardez, si vous reconstituez la chronologie des événements récents, nous sommes aujourd'hui mercredi. Samedi, le ministre des Affaires étrangères iranien était à Genève pour rencontrer ses homologues européens, lesquels, par un miracle, de temps en temps, les Européens ont des éclairs de lucidité, les Européens qui étaient partisans plutôt d'un apaisement, d'une cessation des hostilités. Ils n'ont pas été écoutés, mais c'était déjà un premier, premier élément. Et deux jours après, 48 heures plus tard, le lundi, donc lundi dernier, M. Rachki, le ministre iranien, était à Moscou pour discuter avec Poutine. Et si on regarde ce qui s'est passé, à peine avait-il terminé son entretien avec Poutine, que Poutine a téléphoné à Trump, et que Trump, dans la foulée, annonçait que les États-Unis étaient pour un cessez-le-feu, allaient imposer un cessez-le-feu, etc. Donc il y a eu une médiation, je ne sais pas de quelle nature exactement, ou une intervention européenne dans un premier temps, russe dans un second temps, en faveur aussi d'un apaisement. Et là, probablement, Poutine a dû dire, si vous continuez comme ça, on fournira les armements sophistiqués à l'Iran qui vont dézinguer vos avions, qui n'est pas une chose agréable non plus. Et si vous arrêtez, on milite tous en faveur d'un apaisement. Tout ça en restant discret, ça n'a pas été rapporté par la presse ici, mais c'est rapporté ailleurs dans la presse mondiale. Donc voilà, tous ces éléments expliquent un peu ce comportement, à la fois la riposte extrêmement calibrée de l'Iran contre les États-Unis, 14 bombes d'un côté, 14 missiles de l'autre, justement pour montrer au fond qu'il était nécessaire de part et d'autre d'essayer d'apaiser le conflit plutôt que de provoquer une déflagration générale, voire même un conflit nucléaire, ce qui n'était pas non plus exclu.
Qui était d'ailleurs le sujet, en tout cas la justification de l'attaque d'Israël d'abord et puis des États-Unis après, c'est ce apparent programme nucléaire qui semblait pourtant avoir été complètement débunké par les États-Unis, les services de renseignement américains. Est-ce qu'il y avait vraiment une question et un danger du nucléaire en Iran?
Oui, on peut comprendre, disons, maintenant si on se met du côté des Israéliens, on peut comprendre que les Israéliens ne soient pas ravis à la perspective que l'Iran ou qu'un grand voisin arabe se dote d'une arme nucléaire. Ils veulent avoir le monopole régional en matière nucléaire. Eux ont la bombe et ils ne veulent pas qu'il y en ait d'autres, surtout pas des voisins plus hostiles ou hostiles comme l'Iran, qui est une arme nucléaire. Parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, l'Iran deviendrait absolument inexpugnable ou impossible. Voilà. Comme on le sait, dès qu'on a l'arme nucléaire, eh bien, on est protégé.
Mais là, exactement, on est protégé, comme vous le dites. Mais alors, du coup, est-ce que ce ne serait même pas une raison suffisante pour que, en fait, au niveau moral même, l'Iran puisse se doter? Pourquoi nous, en Occident, on accepte qu'Israël puisse avoir la bombe, sans même le dire, hors de tout traité, et puis l'Iran n'a pas le droit? Qui a décidé de cet ordre des choses?
On est d'accord, il y a un traité de non-prolifération.
Que d'ailleurs l'Iran a signé.
Que l'Iran a signé, donc on peut dire, l'Iran le respecte, tant qu'il n'a pas la bombe, l'Iran respecte le traité. Les contrôles de l'Agence internationale d'énergie atomique ont aussi montré que l'Iran enrichissait l'uranium, mais n'avait pas la bombe, et que normalement, elle ne devait pas l'avoir. Donc on voit que tout ça a été cette menace nucléaire iranienne a été gonflée délibérément pour justifier ces frappes. Mais effectivement, d'un point de vue simplement logique ou rationnel ou équitable, l'Iran serait en mesure serait légitime aussi à essayer d'avoir sa propre bombe. Mais cela dit, le traité TNP, tant qu'il a été signé, doit être respecté. Et je pense que comme citoyen du monde, on doit espérer, on doit aussi militer pour que le développement de l'arme nucléaire soit le plus limité possible. Donc personnellement, même si je trouve que l'Iran a un droit légitime de se défendre, je ne suis pas favorable à la multiplication générale des armes nucléaires, parce que ça veut dire que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va finir par l'utiliser sans qu'on sache ce que ça va donner. Donc là, par prudence, on va dire, mieux vaut limiter son expansion.
Bien sûr, globalement. Mais si on regarde tous ceux qui ne l'ont pas, en général, ils se font complètement dézinguer aussi.
Et là, alors, c'est bien là le problème, parce qu'on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, justement, qu'on se mette à attaquer délibérément une puissance qui n'a pas la bombe sous prétexte qu'elle voudrait l'avoir. Ça, on est complètement. Et là, bah, ça montre toute l'illégalité, la violation crasse du droit qui a été commise tant par les Israéliens que par les Américains dans leur attaque contre l'Iran. C'est juste inadmissible. Et voilà, quoi. Après.
Oui, les réactions internationales, d'ailleurs, pour moi, en disent assez long. Aussi, non seulement des pays de l'Europe, enfin les pays de l'Europe, mais aussi du monde arabe, qui ne condamnaient pas les bombardements sur l'Iran, mais quand l'Iran a riposté, notamment sur la base, c'était au Koweït,
Non,
au
c'est
Qatar, au
en
Qatar.
Qatar, oui.
Alors là, il y a tout le monde qui a condamné. Donc c'est aussi intéressant de voir ces jeux diplomatiques, entre guillemets. Qui révèle les vraies alliances en fin
Oui,
de
oui.
compte,
Bah,
même si on s'y attendait un
alors,
petit
c'est
peu,
pas,
on l'avait
je
vu.
pense pas que le monde arabe soit allié aux États-Unis de façon stricte, enfin de façon juridique, mais indiscutablement, on va dire, soumis. On voit où penche la balance et que même s'ils essaient de maintenir leur marge de manœuvre, in fine, en cas de problème, ils se rangent derrière, on va dire, derrière les États-Unis. Mais ils jouent aussi un jeu assez subtil. J'étais en Arabie Saoudite il y a 2 ans et j'ai été frappé quand même de voir que le comportement des Saoudiens avait beaucoup évolué. D'ailleurs, le fait même que la Chine ait réussi à servir de médiateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en 2022, montre aussi une évolution assez profonde, on va dire, du monde musulman. Mais, sans le dire, sans vexer le grand ami américain, par exemple, aucun de ces pays n'a adopté de sanctions contre la Russie, au grand dam d'ailleurs des États-Unis et des Européens. Donc on voit qu'ils essayent d'augmenter, d'élargir leur marge de manœuvre. Et ça, je pense que c'est aussi assez positif, hein. Certains sont rentrés dans les BRICS aussi. Donc il y a une évolution, mais qui est discrète, prudente. Et voilà, évidemment, quand ça chauffe, alors à ce moment-là, on vient vite se réfugier sous l'aile américaine. Mais je ne pense pas que ce soit on va dire de la dépendance ou de l'alliance. Enfin, disons, ils ne sont pas dupes, hein, ils ne sont plus dupes.
Non, et les peuples encore moins
Et
aussi, il
les
y a cette
peuples encore
pression-là.
moins, effectivement, parce que là, la pression publique. Alors, il y a des États, on va dire, du Golfe qui n'ont pas de population. Hein. Les Émirats, c'est 300 000 Émiratis. Qatar, c'est la même chose. En Arabie Saoudite, c'est déjà différent parce qu'il y a 20 millions de personnes et beaucoup de jeunes. Ces gens-là ne sont pas favorables à ce que Israël éradique, massacre les Palestiniens. Donc là, en Égypte, évidemment, encore plus, en Jordanie, voilà. Dans les autres pays arabes, évidemment, l'opinion publique est favorable aux Palestiniens et pas à Israël. Et là, il y a aussi une obligation de prudence de la part de ces gouvernements. Mais voilà ce qu'on peut dire. Moi, je pense que dans mon opinion, ma théorie, c'est qu'au fond, on a actuellement deux guerres régionales, une guerre en Ukraine, une guerre en Palestine, au Moyen-Orient, ou maintenant presque deux guerres, une guerre contre Gaza, une guerre contre l'Iran, même s'il y a un cessez-le-feu. On a deux foyers de conflit, Ukraine-Palestine, qui sont les deux faces d'une même pièce. Alors, les politologues, les géopoliticiens qu'on écoute à longueur de journée sur nos plateaux TV ou dans nos émissions de radio prétendent que non, c'est des guerres purement régionales qui seraient dues à la folie de Poutine, ou alors à celle de Netanyahou
Surtout du
éventuellement,
Hamas en général, il est
et
peu
du Hamas
accusé.
évidemment, donc dû au Hamas. Et maintenant, comme l'opinion se retourne un peu, éventuellement à
Compliqué.
Netanyahou, etc. Donc ce serait dû au fond au caprice et puis au délire de pouvoir de deux dirigeants qui seraient des malades mentaux. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et cette dimension de vouloir uniquement faire de ces conflits des querelles de voisinage, on va dire comme ça, entre la Russie et l'Ukraine ou entre Israël et ses voisins, c'est partiellement juste, Mais c'est aussi partiellement complètement faux. Parce que ces deux guerres ou ces deux types de conflits doivent s'inscrire dans une perspective beaucoup plus large, plus générale, qui est ce que je disais au début de notre émission, qui est à savoir une guerre de domination imposée par les États-Unis, que moi je fais remonter au 11 septembre 2001. Pour moi, là, il y a d'autres théories. Certains qui disent qu'on entre dans la Troisième Guerre mondiale, etc., avec ces attaques. Pour moi, c'est cette guerre, on va dire, que je nomme impériale, a commencé en septembre 2001. Pourquoi elle a commencé à ce moment-là? Parce que pendant 10 ans, la fin du régime soviétique, fin 1991 à 2001, les États-Unis ont connu leur moment unilatéral, leur moment hégémonique. C'était devenu la seule puissance capable d'imposer ses vues hégémoniques dans le monde, et donc a régné sans partage. Et elle a pu, au fond, organiser à travers la globalisation cette domination sans aucun contre-pouvoir, aucun contre-poids. Elle a mis en place ses institutions, à travers le FMI, la domination du dollar, tout ce qu'on sait, et sans qu'elle puisse être contestée. Tout d'un coup, tonnerre dans ce ciel où tout se passait bien, c'était l'époque de la mondialisation dite heureuse, arrive le 11 septembre où des va-nu-pieds, on va dire comme ça, avec Ben Laden, on s'en porte pas exactement, on connaît pas encore tous les dessous du 11 septembre, discutable, mais enfin où tout d'un coup, des va-nu-pieds venaient contester cette domination américaine et au fond infliger à cette toute puissance complètement dominatrice une baffe, une gifle absolument monumentale en s'en prenant au symbole même de ce pouvoir américain qui était le tour du World Trade Center et puis le Pentagone qui était directement attaqué ou touché par un avion. Et donc là,
il y a des doutes sur l'avion.
Enfin, il y a quand même eu des dégâts. Mais peu importe, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des dégâts, enfin, etc. Et bon, l'avion est quand même tombé quelque part. Bref, il y a des doutes, je pense, plutôt sur le troisième bâtiment à New York. Là, c'est pas
le
clair.
Bâtiment 7.
Le Pentagone, personnellement, je pense que c'est quand même arrivé. Bref, peu importe. Et à partir de ce moment-là, les États-Unis sont rentrés avec Bush dans une surréaction, parce qu'ils se sont dit, mais finalement, notre domination ne va pas autant de soi que prévu, quels que soient d'ailleurs les responsables de ces attaques du 11 septembre. Il y a quand même un problème. Et puis 3000 personnes tuées, une opinion publique, bref. Et on est rentré dans cette guerre contre le terrorisme décrétée par Bush, par l'invasion de l'Afghanistan, quelques jours après, en septembre, en automne 2001, l'invasion de l'Irak et tout ce qu'on connaît. Et donc c'est là que, personnellement, je situe ce début de cette grande guerre impériale qui vise au fond à maintenir le statu quo des années 90, à savoir la domination absolue sans contre-pouvoir, l'élimination des rivaux potentiels, qu'ils soient russes ou qu'ils soient chinois. À mon avis, c'est là que ça a commencé. 2001, c'est une date tout à fait symbolique, mais il n'y a pas de hasard en politique internationale. C'est aussi l'année où la Chine a accédé à l'OMC. Et ça avait déjà commencé avec Deng Xiaoping. Mais c'était le début de l'effervescence économique chinoise. Donc, pour ça que je situe tout ça en 2001. Tout d'un coup, les Américains perçoivent que pour une raison ou pour une autre, ils sont vulnérables. Ils peuvent être attaqués par des proxys. On peut penser que ceux qui ont commis les attentats étaient des proxys, c'était des groupements. Et voilà, déchaînant en fait les foudres ensuite de la réaction des invasions, etc., qui se poursuivent maintenant. Pour moi, la guerre en Ukraine est une guerre provoquée par les États-Unis, même si c'est la Russie qui a
Oui.
pris l'initiative de la contre-offensive, on va dire, dans le Donbass. La guerre du Donbass a commencé parce qu'il y a eu un coup d'État fomenté par les États-Unis en février 2014 en Ukraine. Autrement, il n'y a aucune raison pour que les Russes s'en prennent à un régime ami à Kiev. Aucune. C'est là que la guerre d'Ukraine a commencé. C'est fait en deux phases, 2014-2015, puis après, il y a eu soi-disant plus ou moins de d'apaisement, bien qu'il y ait des bombardements permanents contre les populations civiles de Donbass, puis une recrudescence, deuxième phase, avec l'opération russe en 2022. Et pour Israël, ben, Israël, chaque fois qu'il y a une opportunité, au fond, chaque fois qu'Israël se sent un tout petit peu lui aussi contesté comme force suprême, voilà, suprématiste régional, eh bien, trouve un prétexte pour intervenir, essayer de casser la résistance, que soit le Hezbollah, que soit l'Iran ou autre chose.
Oui, c'est souvent comme ça, la force de dissuasion, la force militaire de dissuasion qui est toujours utilisée. D'ailleurs, c'est aussi ça le problème, c'est quand quelqu'un les challenge un tout petit peu et répond par fois 10, fois 100, on voit que cette relation de proportionnalité est
Oui, parce
complètement.
que tout est
Bien
prétexte,
sûr,
au fond,
quand.
pour essayer d'anéantir l'adversaire.
Alors, je vous rejoins sur le plan politique. Moi, j'ajoute aussi un plan économique du complexe militaro-industriel qui, depuis effectivement 2001, mais certainement déjà avant, a besoin de retrouver des débouchés pour vendre des armes partout dans le monde. Et puis que aussi, si les guerres s'arrêtent, ça veut dire que le business s'arrête. Donc on le voit aussi que depuis lors, depuis des décennies maintenant, le monde n'a jamais été en paix. Et les États-Unis eux-mêmes, depuis même leur existence, n'ont été en paix que quelques mois, sinon quelques années. Et que là aussi, là derrière, les puissances économiques jouent un grand rôle, même si je rejoins hein, sur cette volonté de suprématie et d'impérialisme, évidemment. Mais qui, à mon avis, est intimement lié avec ceux qui mettent ces gens au pouvoir, c'est-à-dire ces forces économiques, et puis ces lobbies, en l'occurrence aussi Israël. Maintenant, si on veut être élu en Israël, bon, il y a eu une petite virgule hier, puisque dans l'élection des primaires démocrates pour New York, c'est un non-sioniste qui a battu Cuomo, donc un sioniste, avec l'argent aussi. De l'AIPAC. Et du coup, peut-être il y a un vent nouveau, surtout dans la jeunesse, mais à voir. À mon avis, c'est plus une exception qu'une règle, en l'occurrence.
Oui, puis le candidat qui a été retenu, il est lui-même, je crois que c'est un musulman, enfin je
Oui.
sais pas, voilà, ouais. Il est lui-même, enfin c'est un démocrate, du côté
Ah, un
démocrate un peu
démocrate socialiste.
socialiste, un peu wokiste, il reste quand même assez bien dans la ligne, même s'il n'est pas une, mais c'est effectivement
Affaire à
intéressant.
suivre, effectivement, souvent. La
Ce que vous
trahison
dites
n'est pas loin.
concernant l'économie est tout à fait juste. On n'a pas eu de guerre pendant 12 ans, entre la guerre du Golfe, 1991, et 2001, une bonne dizaine d'années, on va dire. Et pendant cette décennie, les budgets militaires sont descendus partout. Les dépenses militaires, les dépenses de défense se sont réduites partout. C'est à ce moment-là que les pays européens ont abandonné la conscription, pas la Suisse, mais les autres pays, la France, etc. Et partout, les dépenses militaires ont diminué. Ça a été la période de grâce parce que là, justement, on va dire, les États-Unis se sont dit, on n'a pas besoin d'autant d'appareils militaires, au fond, pour être les maîtres. Mais dès qu'il y a eu ces événements dont on a parlé du 11 septembre, on a vu repartir à la hausse les. Et là, effectivement, les lobbies de la défense ont repris du poil de la bête. Et maintenant. Alors, avec ceux de l'énergie, du pétrole, au fond, dominent par le lobbying, dominent les parlements, enfin, les gangrénés, on va dire, les appareils politiques, parlementaires de nos démocraties, que je mets en guillemets, parce que plutôt, effectivement, on voit que ces parlements sont complètement, au fond, infiltrés,
Corrompu.
et voilà. Par ça. Il y a une autre dimension économique qui est très importante, à part, on va dire, les milieux de la défense, les industries de la défense. pour les États-Unis et pour l'Occident en général, c'est la domination du dollar et la domination du monde par l'endettement. Il faut lire à ce propos ou regarder ce que fait ce professeur américain qui s'appelle Michael Hudson, un spécialiste de la dette. Il a fait une histoire de la dette depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Il montrait par exemple comment, dans les anciens royaumes d'Asie, ben justement, en Perse, enfin, les souverains, tous les 20 ans, faisaient des remises de dettes, des jubilés. Et un jubilé, c'était l'effacement de toutes les dettes. On n'effaçait pas, on privait pas les gens de leur fortune, mais on annulait toutes les dettes et donc les créances des créanciers, ce qui était une manière de remettre à zéro. Ça a été évidemment, enfin, c'est intéressant, je le mentionne
Oui,
juste comme ça.
c'est passionnant ça, et je pense qu'il y a une clé
Et
là.
ça devrait être refait de nos jours, parce que la dette est un moyen de s'assurer la
Oui,
soumission des gens,
d'asservissement, bien sûr.
hein, l'asservissement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à la fin du Moyen Âge, quand les serfs, on va dire comme ça pour prononcer, les serfs sont devenus, qui normalement travaillaient la terre en échange de la protection des seigneurs, hein, chacun y trouvait son compte, sont devenus asservis. C'est d'ailleurs l'origine du mot asservissement, parce que ils se sont endettés auprès du seigneur. Et en plus, ils ont hypothéqué leur terre, ils sont devenus complètement dépendants. C'est ce qui s'est passé chez nous, c'est ce qui s'est passé en Russie. En Russie, ils ont été libérés seulement au 19e siècle. Puis chez nous, à la faveur de la Révolution française, grosso modo. Et cet asservissement, c'est exactement ce qui est en train de se passer de nos jours. Alors, c'est plus la terre qui devient le moyen d'asservir, mais c'est la dette, c'est l'endettement général, notamment, par exemple, l'endettement des pays du Sud par rapport aux pays du Nord, à travers le FMI et la Banque mondiale, qui sont au fond des organismes d'asservissement du Sud global. Et de nous-mêmes, comme citoyens, on va dire, des démocraties, où au fond, le niveau de vie depuis 15-20 ans stagne, alors même que celui de, le niveau de vie des plus riches explose.
Littéralement.
Donc ça veut dire que pour le moment, on n'a pas encore, on va dire, de chute drastique des niveaux de vie dans nos pays, mais ça viendra. Parce qu'au premier problème venu, première difficulté économique venue, eh bien, qui va serrer la ceinture? Ça ne va pas être les super milliardaires. Donc on rentre dans ce processus d'asservissement par la dette qui va se généraliser. Et au niveau géopolitique, c'est ça qu'on ne pas parler encore des individus, mais au niveau géopolitique, le meilleur moyen pour les États-Unis de maintenir au fond le privilège dont ils jouissent, eh bien, ça passe par ces instruments-là. Et au fond, quand on regarde aussi l'histoire de ces 20 dernières années, on constate que Kadhafi, par exemple, Kadhafi, c'était une autre guerre provoquée aussi par, on va dire, les Occidentaux, hein, même si c'est Sarkozy qui a porté le premier coup, même si Obama fait semblant de se retenir, mais Hillary Clinton, elle était là, hein, c'est elle
Toujours
qui
les
orchestrait
mêmes,
toujours les mêmes.
les hawks.
Kadhafi est tombé. Alors, on pouvait dire c'est un méchant dictateur, natata, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait créer une monnaie en Afrique pour libérer l'Afrique de la tutelle du franc CFA, du dollar et de la spirale de la dette imposée par le FMI et la Banque mondiale. C'est ça la vraie raison. Évidemment, on peut trouver, hein, des gens qui en ont parlé, mais qui a jamais été, au fond, très explicitement exprimé dans nos médias, qui ont conduit, au fond, l'Occident à le débarquer et à le liquider, à le tuer. Il
Oui.
n'y a pas d'autre.
Non. Mais si on regarde...
Surtout que Kadhafi avait rendu, on l'accusait d'avoir des armes. Il avait tout rendu.
Chimique, ouais.
Ouais,
Il avait
des armes
rendu, ouais.
chimiques,
Il avait été
etc. Il avait
complètement...
rempli
Il
son
avait
contrat,
prouvé...
mais malgré ça, il a quand même été dégommé. Donc, parce que c'était une menace. Maintenant, si on veut être positif, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que pour l'Occident, par rapport à cette, on va dire, cette domination néfaste, la Chine est devenue assez puissante pour contester ce. Il y a des contre-pouvoirs, c'est ça qui est nouveau hein, dans notre monde. Ils sont pas encore très organisés, mais bon, moi j'en suis rendu deux fois en Chine ces 6 derniers mois. Je suis rentré convaincu que la Chine avait passé devant les États-Unis en termes économiques, de puissance économique et même de puissance d'innovation en matière d'intelligence artificielle. C'est une intuition, j'ai pas fait d'enquête, mais j'ai pu visiter des usines, discuter avec des professeurs, des experts, etc. Et j'ai pour moi l'impression que la Chine, sans trop le montrer, comme toujours, assez discrètement, force tranquille, parce qu'elle veut préserver maximum de possibilités, ne pas entrer en conflit immédiat, parce que ça coûterait évidemment très cher.
Une vision long-termiste.
Aussi. Vision long-termiste, profil bas, mais pour moi, déjà passé devant.
D'ailleurs, vous parliez de la dette tout à l'heure, mais quand on regarde la dette américaine, justement, c'est des dizaines de milliers de milliards de dollars. Ils ont dû rajouter des nouvelles cases dans leur compte, là. Et la Chine, notamment, possède de la dette américaine. Donc, elle a peut-être un levier. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ça qui a fait pencher un bout de la balance.
Elle a un levier. Mais elle se garde de l'utiliser parce que ce serait au fond l'arme atomique, enfin l'arme économique atomique, on va dire. Parce que ça peut mettre fin au système et aussi à sa capacité d'exporter. Donc tout le système, y compris sa propre économie, pourrait en être affecté. C'est pour ça que c'est des choses, on tire une fois, mais après on ne sait pas où. Voilà. Donc elle est très prudente de ce point de vue-là. Oui, le génie, pour moi, américain, parce qu'il y a un génie américain quelque part, qu'on aime ou pas les États-Unis, le génie des Américains, c'est de pouvoir assurer cette domination en s'endettant eux-mêmes sans jamais avoir besoin de rembourser leur propre dette. Au fond, ils nous vendent de la dette pourrie en faisant en sorte, et normalement, on devrait exiger d'eux le remboursement de cette dette, mais c'est impossible. Puisqu'ils maîtrisent au fond le dollar, qui est l'instrument par lequel cette dette s'effectue.
Oui, mais qui perd quand même sa valeur.
Alors qu'il perd sa valeur, il arrivera un moment où peut-être tout ça va se rompre. Hein. Mais pour le moment, ils avaient réussi, quand ils ont décollé le dollar de l'or, parce que le dollar est indexé sur l'or jusqu'en 1973, c'est Nixon qui est sorti. Et même les Américains avaient peur en se disant, parce qu'ils avaient vu qu'avec les coups de la guerre du Vietnam et le coup des guerres qui menaient à l'extérieur, dont celle du Vietnam, au fond, c'était plus supportable parce qu'ils s'endettaient auprès des autres États et puis le dollar était convertible en or, 20%. Et donc, les Français vendaient, mais ils pouvaient prendre 20% de la dette et l'or sortait de Fort Knox. Pour arriver dans les banques européennes et, enfin, vis-à-vis des débits, enfin des créanciers. C'était plus possible et mais ça a été un coup de génie. Ils ont déconnecté au fond le dollar de l'or, mais leur domination est encore devenue pire ou plus efficace qu'avant, parce qu'en s'endettant en dollars, en ayant le monopole d'émission du dollar, au fond, cette dette était gratuite. Et ils pouvaient vivre à crédit. La population américaine vit à crédit. Les 37 000 milliards de dollars accumulés, c'est la population, le peuple américain qui vit à crédit sur le dos des autres.
Oui.
Et donc là, quelque part, il y a du génie. C'est une escroquerie, mais c'est assez génial. Et ça marche. C'est pas jusqu'à quand, mais ça marche. Donc, il faut leur laisser cette faculté-là.
Alors, est-ce que c'est des génies ou est-ce qu'on est des imbéciles finis? À mon avis, les deux sont
les deux sont exacts. Ouais.
On parlait d'asservissement tout à l'heure. Et là, tout récemment, donc, la déférence de l'Europe et plus spécifiquement de l'OTAN à travers Mark Rutte, le Hollandais à la tête de l'OTAN, qui a envoyé un message personnel à Trump. en lui disant qu'il était formidable, qu'avec lui, qu'il pouvait réussir une telle mission par rapport à l'Iran, donc, et à la fin, qu'il pouvait s'assurer que l'Europe allait payer un big price. Il était presque fier de le dire. Et moi, je suis toujours halluciné de cette capacité de l'Europe à s'humilier, comme ça, à se coucher. Alors, je peux comprendre, on a parlé des pays arabes tout à l'heure, où il y a une réelle menace. Il y a quand même Israël qui a la bombe nucléaire, etc. On voit que quand ils se réveillent, ben, on va facilement faire des changements de régime et autres. Mais l'Europe, c'est quand même le summum
Ouais,
de
pour moi, de la
l'humiliation, quoi.
la
Parce que,
servilité.
ouais, c'est ça, je dirais, la servilité. On est vraiment des vassaux. De bas de gamme, quoi.
Ça me rappelle qu'il y a 6 ans, en 2019, j'ai publié un livre qui s'appelle Le continent perdu, qui est une histoire du passé, mais aussi une projection un petit peu du futur de l'Europe, du continent européen. Le continent qui est perdu, c'est l'Europe. Hein. C'était ça. Le titre indique bien le programme. Parce que déjà, il y a 6 ans, à mes yeux, l'Union européenne se précipitait vers, non pas vers l'abîme, mais vers la vassalité. Et c'est amusant parce que ce livre a paru aux États-Unis et l'éditeur américain, qui est à Atlanta, il n'aimait pas le titre de Lost Continent, le continent perdu en anglais, ça n'allait pas parce que c'était, pour eux, c'était l'Amérique. Vivant aux États-Unis, c'était le continent perdu, c'était le leur. Et ce n'était pas ce que je voulais dire puisque je parlais de l'Europe. Donc il fallait trouver un autre titre. Et puis elle m'a suggéré un autre titre, c'était Le dilemme existentiel de l'Europe, en anglais. Et le sous-titre, c'était Être ou ne pas être vassal des États-Unis. Et c'est ce qu'on a vu. Le programme a été entièrement réalisé ces 6 dernières années. Et maintenant, les Européens font assaut de servilité, de vassalité vis-à-vis des États-Unis. Ce rut s'est couché, mais d'une façon complètement, comme vous dites, c'est inimaginable devant son maître américain pour lui lécher les pieds, pour pas dire autre
Littéralement.
chose. Donc, vraiment, et sans
Léchage
aucune
de
honte,
couilles.
sans aucune vergogne, quoi. Et c'est fascinant de voir les présidents gesticulant pour Macron, ou vociférant comme Starmer, je veux dire, se précipiter pour lécher les bottes du maître américain. Et tout ça en disant qu'il faut qu'on s'arme contre la Russie qui nous menace, qui est un autre pays européen. Donc on fait assaut de servilité vers une puissance qui n'est pas européenne contre une puissance qui, elle, est européenne et qui, avec laquelle, si on avait la volonté de collaborer, eh bien on pourrait retrouver toute notre autonomie, toute notre indépendance et redevenir force qui compte dans le monde.
Oui.
Juste absurde.
Mais là, on peut comprendre pourquoi les États-Unis ne souhaitent pas ça. Mais justement, on joue
Bah
ce
oui,
rôle
mais
américain de nouveau
voilà.
beaucoup trop
Mais
facilement.
on aurait les moyens de s'en sortir. L'Europe aurait les moyens de s'en sortir, pour moi. C'est un peu ce que vivent les Européens aujourd'hui, c'est un peu ce que vivait la Suisse à la fin de l'Ancien Régime. La Suisse était divisée, elle envoyait des mercenaires, elle vivait de mercenaires, c'est-à-dire qu'elle vendait ses forces à toutes les puissances combattantes européennes, souvent d'ailleurs avec des mercenaires qui se combattaient les uns les autres. Bon, il y avait certaines règles, mais c'est un pays dans lequel on agissait, la diète avait très peu de pouvoir, et c'était l'ambassadeur de France qui, dans sa résidence à Soleure, qui faisait la loi en Suisse, ou les grandes puissances. Elle a réussi à reprendre son autonomie et son indépendance après les guerres napoléoniennes, après le traité de Vienne, peu à peu, justement en s'appuyant sur la démocratie directe. C'est-à-dire que le meilleur moyen de tenir les puissances extérieures qui s'ingéraient sans cesse dans les affaires suisses, l'Autriche-Hongrie, enfin l'empereur d'Autriche, après les enfin d'abord les Français, les Autrichiens, après les Prussiens, enfin, etc. 19e siècle, les Anglais, évidemment, les tenir un peu à distance à travers les instruments de démocratie directe. Et une des premières votations dans les années 1830 ou 40, ça avait été sur les uniformes de l'armée suisse. Ça voulait dire, on n'a pas voté pour faire une armée, parce que ça, c'était trop dangereux par rapport aux puissances européennes justement, qui avait pris la mauvaise habitude de s'ingérer dans nos affaires, mais c'était sur la couleur, c'était amusant, mais qui permettait au fond de reconstituer une armée. Ces armées étaient cantonales, donc elles se bouffaient le nez entre les unes entre les autres, mais nationales, et peu à peu de reconstruire une souveraineté nationale, ce qui a été accéléré après 1847 et Sonderbund, grâce aux instruments de démocratie directe qui permettaient de dire aux autres, aux Français, aux Autrichiens, disaient, écoutez, on est désolé, on aimerait bien pouvoir faire des choses avec vous, mais ce bête peuple suisse, ces crétins de Suisse, vous voyez, ils ne votent pas, ils votent comme ça. Donc, on est quand même obligé, comme on est une démocratie, on est quand même obligé de respecter plus ou moins ce que nous dit le peuple. Et ça, ça a été peu à peu une manière de retrouver notre indépendance. L'Europe pourrait faire de même. Mais comme les dirigeants européens ne font pas confiance dans leur peuple et n'ont pas envie non plus de lui faire confiance, on ne permet pas, au fond, au peuple européen, des différentes nations européennes, de se construire une authentique souveraineté chacun à l'intérieur de son cadre national, comme font les cantons suisses. Ça pourrait être un moyen, je ne dis pas que c'est forcément le moyen, le meilleur d'entre eux, mais ça pourrait être un moyen de construire peu à peu une vraie démocratie européenne. Il n'existe pas du tout maintenant. Juste tout le contraire. Madame von der Leyen qui a
élue par personne. Oui.
Et puis, de faire, au fond, d'assurer, de respecter, on va dire, les nations européennes comme la Suisse devait respecter les cantons il y a 200 ans. Quoi.
Faudrait-il peut-être quand même qu'ils commencent par respecter leur propre peuple au niveau national, parce que là, par exemple, on voit la France où les gens disent simplement n'importe quoi. Encore ce matin, le Premier ministre français, Bayrou, disait qu'en Iran, ils pendaient en masse les femmes lorsqu'on laissait dépasser leurs cheveux. Mais ils s'inventent des mondes complètement parallèles. Il disait aussi, Attal, que donc, l'Iran violait le droit international du lever au coucher et que Israël était garant du droit, du bon droit international. Enfin, on entend comme ça des pures folies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de vrai, mais on voit que c'est des raccourcis, c'est des simplifications, c'est une prise de dans un camp X pour simplement faire avancer rien du tout en fin de compte, parce que les gens se rendent compte que c'est du grand n'importe quoi, c'est du cirque.
Oui, et c'est du double standard, c'est-à-dire qu'on, d'un côté, Israël peut violer le droit international, peut agresser un pays, peut massacrer une population, quitte à commettre un génocide, commettre des crimes contre l'humanité, à tirer l'arigot, il n'y a aucun problème. Puis de l'autre, annexer le Golan, puis de l'autre, alors, quand un pays comme la Russie fait le dixième de ce que fait Israël, c'est intolérable, c'est une dictature, il faut la battre, etc., etc. Quoi. Quand la Russie annexe la Crimée avec l'assentiment de sa population, ça ne va pas. Mais quand l'Occident sépare le Kosovo de la Serbie ou le Golan de la Syrie, aucun problème. Mais ce double standard qui est malheureusement, on va dire, seriné de telle façon, de façon si intense, qui finit par ne plus être perçu par les Européens, lui, ce double standard n'échappe pas aux opinions publiques du reste du monde. Et c'est ça aussi l'élément nouveau. Moi, c'est comme je disais en matière économique, maintenant il y a des contre-pouvoirs économiques à la domination on va dire, des États-Unis.
Notamment les BRICS, c'est ça que
notamment les BRICS, effectivement. Mais il y a aussi des contre-pouvoirs, on va dire, idéologiques ou médiatiques qui font que ces opinions publiques-là ne sont plus dupes du discours mensonger, du double discours qui est tenu par les médias européens, parce que les médias européens qui dominaient le monde à travers les agences Reuters et AP, etc., qui avaient le monopole au fond de l'information mondiale, maintenant ne l'ont plus, l'ont quasiment perdu, ou l'ont de moins en moins. Et c'est ça aussi qui est un phénomène nouveau. On voit d'ailleurs au Moyen-Orient avec Al Jazeera, c'est pas pour rien qu'Israël a interdit, expulsé Al Jazeera de son territoire. Donc ça, c'est intéressant, même si on peut trouver qu'Al Jazeera est un peu à la botte du Qatar, peu importe. C'est une autre voix, c'est un autre son de cloche, c'est une diversité, un vrai pluralisme, on va dire, quelle que soit la valeur intrinsèque du média lui-même. Et ça, c'est important.
Vous êtes journaliste indépendant aussi, donc cette couverture, je dirais, unilatérale que présentent nos médias quand même, en tout cas les plus grands, parce que maintenant il y a de plus en plus de médias alternatifs. Quel rôle, selon vous, ils ont dans la propagation et l'impunité et ce double standard-là? Est-ce que, comme moi je le pense, ils sont en grande partie responsables de colporter aussi
Bah
cette
oui.
vision binaire et simpliste?
Bah oui, vous avez ce journaliste allemand malheureusement décédé qui s'appelait Udo Ulfkotte, qui a écrit un livre sur les médias achetés, je sais plus le titre en allemand, die gekauften Medien, quelque chose comme ça. Je l'ai chez moi, qui montre comment l'ensemble des médias allemands, des grands médias, la Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, des grands médias aussi audiovisuels, au fond, ont été achetés par l'OTAN. La propagande, on va dire, atlantiste de l'OTAN. Déjà en 2014-2015, hein, par des moyens très simples que moi-même j'avais observés comme rédacteur, quand j'étais rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Ça se fait. Vous savez, dans un pays comme la Suisse, vous avez une vingtaine ou une trentaine de journalistes internationaux, enfin qui pilotent les rubriques internationales. Il suffit de repérer 15 à 20 personnes, de les inviter à manger à Bruxelles, à des séminaires dans des hôtels de luxe sur la sécurité en Europe, et puis comme les guerres du futur, Dieu sait quoi, de s'en faire des amis, de leur confier après des modérations de panel ou des exercices qui sont financés, qui viennent voilà, s'ajouter à la rémunération. Tout ça se fait le plus légalement avec des aspects académiques, en donnant avec des think tanks au nom ronflant d'études de la démocratie, de propagation de ceci, d'études de la sécurité. Tous ces noms ronflants qu'on voit là, vous invitez 15-20 personnes, ça ne vous coûte rien du tout, quelques centaines, quelques millions de francs, et au bout de 5-10 ans, ces gens sont complètement achetés. Ils n'en ont même pas conscience. Ils sont les serviteurs zélés de la parole officielle. Puis après, vous financez, c'est ce que font par exemple les Britanniques avec leur GCHQ, ils ont 5 000 personnes, 5 à 6 000, leur centre de. Ce n'est pas un centre d'espionnage, c'est un centre de formatage de l'opinion. Ces gens, chaque matin, prennent leur voiture, viennent travailler pour diffuser des messages, diffuser des enquêtes, par exemple Bellingcat. Bellingcat, qui est soi-disant un groupement d'investigation qui est célébré par nos enquêteurs du Temps, de la Tribune de Genève, etc., comme un organe qui pourvoit avec ses enquêtes. C'est une émanation des services britanniques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils diffusent des pseudo-enquêtes qui visent tout le temps les mêmes, qui visent tout le temps les pseudo-espions russes qui infesteraient la Suisse, les pseudo-ceci, etc., qui vont toujours dans le même sens. On envoie le fax, j'ai des cas, bon, je ne peux pas citer les noms ici, mais je connais des gens. Avant, il n'y a plus de fax, mais qui recevaient des fax directement de l'ambassade américaine ou du service compétent dans l'ambassade américaine à Berne ou ailleurs, pour soulever un lièvre, soi-disant, dans une banque, qui avait eu des trafics, enfin, il fallait investiguer, je ne sais pas quel compte, dans je ne sais pas quelle banque au Tessin ou ailleurs. Comme par hasard, c'était toujours des comptes qui appartenaient à des puissances hostiles aux États-Unis. Puis comme ça avait une valeur semi-officielle, parce que ça venait d'une officine officielle, ça suffit aux journalistes pour se mettre en branle. Et puis, oh, j'ai un super scoop, etc. Mais tuyau complètement, on va dire, biaisé, enfin voilà, qui profite qu'à celui qui l'a initié au départ. Mais ça, c'est jamais dit. C'est toujours de source sûre. Mais on ne dit pas comment on a reçu la première information.
Comment ils ont été mis de côté
et
aussi
Bellingcat, c'est l'exemple même
oui, clairement.
De l'officine. Et je connais un journaliste qui se prétend d'investigation, qui se vantait d'avoir suivi la formation de Bellingcat à l'investigation sur Internet pour démonter les fake news russes et compagnie. C'est juste
les
une honte.
Fact-checker
à la noix. C'est juste une honte de pratiquer le métier de cette façon.
Mais il y en avait quand même quelques-uns qui faisaient du bon travail, mais ils ont été aussi mis de côté. Hein,
ils ont pris leur retraite, ils ont été mis
aussi,
de côté.
Il y avait une génération, hein, John Pilger, Seymour Hersh aux États-Unis, en Suisse, il y en avait.
Aux États-Unis, il reste encore des gens qui sont tout à fait bien, mais ils sont souvent quand même aussi un peu âgés. C'est une autre génération. Il y a des plus jeunes aussi, Blumenthal, Clarenberg. Mais
Greenwald.
Il y a Glenn Greenwald, j'avais rencontré à Rio de Janeiro en 2013. Ces gens restent bien. Hein. Mm-hmm. Mais par exemple, je me souviens en 2010, on avait organisé les Assises internationales du journaliste d'investigation à Genève. Il y a eu 500 participants. Et je ne m'étais même pas rendu compte hein, qu'on avait reçu de l'argent. À l'époque, je ne connaissais pas Open Society, on a touché de l'argent même, quasiment sans avoir besoin de le demander, d'Open Society, pour financer, parce qu'il y a des coûts de ça, c'est quand même un gros budget, pour financer ces assises du journaliste d'investigation. Et une autre officine, une autre institution qui est aussi proche de Soros. Et c'est qu'après coup que je me suis rendu compte de ça. Et de qui était Open Society. Et tous ces journalistes d'investigation étaient tellement contents d'avoir ça, en disant oui, puis comme il y a plusieurs sources, on est indépendant. Eh bien, entre 2010 et 2013, toute cette organisation a complètement basculé. Complètement basculé, a été au fond rachetée par Soros, enfin Open Society, qui a continué à financer, par d'autres sources, des sources gouvernementales, genre USAID, qu'on voit
maintenant.
Voilà,
c'est ce que j'allais dire. Hein,
USAID, ou le Norvégien, ou les Anglais, etc. Et au fond, les consortiums de journalistes d'investigation, ceux qu'on peut voir dans la Tribune, l'OCCPR, complètement achetés. Il y a eu des putschs internes pour éliminer les vrais journalistes d'investigation. Le pouvoir a été pris par les autres. Et au fond, se finance uniquement par ces biais-là pour garder l'étiquette, l'apparence d'authentique officine d'investigation, alors qu'en fait, ils sont complètement noyautés que les vrais journalistes d'investigation type Greenwald, l'histoire de Greenwald est tout à fait intéressante.
Hein? Au Brésil.
Oui, mais il fonde sa propre Intercept.
Oui.
Dit Intercept. Son propre site d'un média d'investigation, dont il finit par être expulsé.
Ouais.
Parce qu'il demande de l'argent à un milliardaire, que, évidemment, ça fait toujours plaisir quand l'argent tombe, et que les gens que lui-même avait engagés pour son site d'investigation l'ont à la fin foutu dehors pour conserver l'argent du milliardaire qui, évidemment, avait des intentions complètement différentes.
Évidemment.
Qui était d'asservir, au fond, le site d'investigation pour ses propres fins, propres besoins, et non pas de le mettre au service du journalisme indépendant. Donc, c'est l'exemple même de comment toutes ces institutions, soi-disant d'investigation, ont été infiltrées, noyautées, par l'argent, et je m'en suis rendu compte en ayant au fond mille... l'avoir vécu moi-même.
Alors,
passionnant.
Passionnant, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a le Guardian en Angleterre qui était exactement la même chose. Le service de renseignement...
J'ai bien connu
son
rédacteur en chef s'appelait Alan Rusbridger. J'ai été visité en 2015, juste avant qu'il se fasse ficher dehors. Et il a été foutu dehors et le Guardian a complètement basculé de l'autre côté. Ouais. C'est devenu le journal bien pensant, un peu gauche social-démocrate, mais qui a complètement mis fin à sa réelle capacité d'investigation indépendante, qui est devenue un relais du gouvernement, des services de renseignement, enfin tout ce qu'on sait, quoi.
Mais c'est là qu'on voit quand même qu'ils sont pas si cons que ça, parce qu'ils comprennent l'importance de la
Et ça
transmission
coûte rien.
d'informations.
Acheter un journal, ça coûte rien. Ça coûte quelques dizaines de millions. Qu'est-ce que c'est sur des budgets de plusieurs milliards?
Clairement.
Quand vous êtes un fabricant d'armes, quand vous êtes un ministère de la Défense, je dis, vous inventez n'importe quel institut bidon à consonance académique, vous engagez des gens qui n'ont pas réussi à l'université comme cadre, comme chercheur, comme soi-disant senior fellow, associate, machin, et puis ces gens mangent dans votre main, produisent les résultats que vous voulez, et tout ça, au fond, coûte pas très cher. Quelques millions par an, qui abreuvent les médias installés de leur production, squattent les pages opinion, parce qu'ils sont payés pour produire des pages opinion. Moi, maintenant, dans le temps, je ne peux plus écrire. Quand j'ai écrit, c'est un mois de négociation pour publier un papier, dont on me réécrit la moitié sous prétexte que, je ne sais pas, il y avait un truc.
Ah, il décourage comme ça.
Ah oui.
Mais en disant, non, on reste ouvert.
Bien sûr, bien sûr. Mais bon, quand ça passe un mois de négociation, vous fatiguez, pour un article, c'est ça. En revanche, ces gens dont je parle ont table ouverte, vous les voyez tout le temps s'exprimer sans aucun problème. Il suffit de défendre un peu les droits de l'homme, et puis ceci, et puis cela, être un peu queer, maintenant c'est ça la mode, ça passera, mais enfin voilà. Ou de défendre l'Union européenne ou l'OTAN ou le rapprochement de la Suisse avec l'autre, puis vous passez autoroute.
En francophonie, il y a quand même des résistants qu'on saurait nommer. Moi, il y a Élise Lucet que j'aime bien dans son travail qui semble
assez forte.
Oui,
mais elle est où maintenant? Dites-moi ce qu'elle fait.
Ben, Investigation notamment, et puis elle a effectivement d'autres rôles dans d'autres médias où on peut se poser plus de questions. Mais
vous l'avez revue, vous l'avez suivie, vous avez vu ce qu'elle fait. Pour moi, elle a disparu de la circulation.
Oui, elle subit des pressions, des procès, c'est compliqué, effectivement. Mm-hmm. En Suisse,
Investigation, c'est plutôt Michel Collomb qui fait ça, qui lui est très bien aussi,
un
journaliste. Ouais.
Alors,
il a démonté.
Les deux ont un nom assez similaire. Mais oui, Michel Collomb, bien sûr.
Qui fait du très bon travail, de vrai débunkage, de vrai, on va dire, ce qu'il a fait sur la guerre en Ukraine et l'intox qui a
Absolument. Il est d'ailleurs venu sur le plateau.
Ces gens-là sont dégommés, sont vilipendés,
et
traînés
puis,
dans
la
boue.
La place qu'on leur donne dans les médias, ils doivent la faire eux-mêmes, notamment à travers...
Réduite à zéro.
Mais elle est globalement réduite à zéro.
Voilà, ce qui est réconfortant, c'est que justement... Là, grâce aux réseaux sociaux, il existe quand même des moyens de s'exprimer, comme le vôtre.
Mais
hein,
il faut après
Swissbox,
que les gens souhaitent chercher l'information. C'est-à-dire que nous, on nous trouve si on le veut, mais évidemment, on n'est pas mis en avant par les algorithmes.
Oui, alors les algorithmes ne courent pas après pour mettre ça en première place, ça c'est sûr. Hein.
Mais voilà.
Mais vous savez, moi, je pense qu'on vit aujourd'hui dans la même époque que la fin de l'Empire romain. C'est toujours ce que je dis. À la fin de l'Empire romain, c'était un monde où il y avait des hyper-riches, parce que tout avait été privatisé, les impôts, tout ça, tout était privatisé. C'est d'ailleurs pour ça que l'Empire a fini par tomber. C'est comme à la fin de l'ancien régime monarchique français, où la gabelle, la perception des impôts, avait été confiée à des privés. Dans l'Empire romain, il y a un historien britannique qui a d'ailleurs très bien expliqué ça, les empereurs sont tombés pour plusieurs raisons. Il y a eu le christianisme, il y a eu tout ça, il y a eu les invasions, mais il y a aussi eu le fait qu'ils ont asséché les ressources financières en privatisant la perception. Et donc, ils sont fragilisés, parce que ces gens-là sont devenus hyper riches. À la fin de l'Empire, vous aviez quelques dizaines d'oligarques qui possédaient tout, et puis il n'y avait plus suffisamment de budget pour engager des soldats, les payer pour lutter contre les envahisseurs barbares, pour la faire courte. Et maintenant, la civilisation est aussi tombée à cause de ça. Il n'y a plus assez d'argent pour rénover les bâtiments, entretenir, bref. Et maintenant, on entre pour moi dans une phase un peu similaire. On a une espèce de déliquescence de la civilisation, un épuisement, on va dire comme ça, une fatigue civilisationnelle.
On arrive au bout de quelque chose, effectivement.
n'arrive au bout de quelque chose et au fond, ou le fake, ou l'artifice, ou le faux règne par rapport au vrai. La recherche du vrai, la recherche du beau, on peut dire la même chose en art avec la recherche du beau, enfin, toutes ces notions ont été dévalorisées, mises de côté, etc. Et donc, le vrai, en matière d'information, n'est plus dans les médias officiels, parce qu'il y est incidemment, on trouve des vraies infos. En page 14, vous avez le New York Times, vous avez des bons papiers, des bonnes infos, mais il fallait les fouiller à la fin de la page 14, 17 ou 32. En une, vous ne verrez jamais ça. Qui permet d'ailleurs de dire à cette presse, écoutez, on a fait le job. Sauf qu'on a tellement hiérarchisé, haussé la perception en hiérarchisant de façon tordue l'information qu'elle existe, mais elle est cachée. Quoi. Donc, la vérité subsiste toujours, mais elle est portée, la flamme, on va dire, par une toute petite minorité de gens. Bon, c'était les catacombes, c'était les chrétiens des catacombes à cette époque qui la portaient pour leur part, ou les moines qui recopiaient les philosophes grecs à la lumière des bougies et besogneusement, qui ont permis à la civilisation de se maintenir. Mais à l'époque, ils étaient ignorés, méprisés. Les oligarques de l'époque se pavanaient à Ravenne ou ailleurs, mais ne les finançaient pas. Mais c'est grâce à eux. Donc je me dis, toujours au nom de cette phase de civilisation, l'étincelle de la vérité s'est beaucoup réduite, mais elle est toujours portée par des gens, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, mais elle se perpétuera. Et peut-être 1000 ans après, c'était le cas au fond de la civilisation antique, elle a été remise au goût du jour à la Renaissance, on les a redécouverts, tous ces philosophes grecs, etc. Voilà, grâce à cette action discrète, anonyme, qui paraissait perdue d'avance, mais qui a été faite par des gens qui, pendant plusieurs siècles, ont maintenu cette petite lumière. On rentre dans cette période-là.
Si on peut s'inspirer de ça, tant mieux.
C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir ni courage.
Exactement. Et vous en êtes un bel exemple. Vous êtes aussi connaisseur, très grand connaisseur de la Russie. Est-ce que vous avez la famille là-bas, j'ai entendu ?
Non, mais j'ai le passeport russe.
Ouais. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, je me demandais, dernier sujet avant de vous laisser reprendre le train, je me demandais, il y a des bruits un petit peu, lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran, parce qu'il y a quand même pas une proximité, mais quand même des concordances d'intérêts entre l'Iran et puis la Russie et la Chine, certainement parce qu'ils sont mis un petit peu au banc, c'est devenu un peu des parias, en tout cas pour les Américains. Et les pays de l'OTAN, s'il n'y avait pas eu un accord qui disait, en gros, les Américains demandaient aux Russes, bon, vous laissez le Moyen-Orient sans trop réagir, et puis on se calme en Ukraine, on vous laisse, nous, un petit peu faire ce que vous voulez en Ukraine. Je ne sais pas si c'était cohérent à un moment donné.
Je ne sens pas comme ça.
Et puis, quelle est aujourd'hui la situation ? Alors, on a souvent Jacques Beau sur cette chaîne. Du coup, les auditeurs sont assez au courant de l'état des forces des choses. Et puis, évidemment, là aussi, des mensonges, parce que c'est structurel. Ce que vous avez dit tout à l'heure se répète sur tous les conflits. Donc, si on écoutait nos médias, on penserait qu'effectivement, l'Ukraine est aux portes de la victoire et que la Russie va complètement exploser, ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Mais voilà, les forces. Est-ce que là aussi, prochainement, est-ce que ce qui s'est passé au Moyen-Orient va amener un changement ou peut-être une résolution quelque part du conflit entre la Russie et l'Ukraine parce que vraisemblablement il n'y a plus l'énergie de ceux qui enveniment les choses, hein, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis et puis maintenant l'Europe qui essaie de reprendre le flambeau puisqu'ils voient que Trump est moins intéressé. Comment vous analysez cette chose-là
Merci pour la question. Juste peut-être en préambule, pourquoi j'ai le passeport russe pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. C'est parce qu'il y a 30 ans, ma femme et moi avons adopté une petite fille russe qui a maintenant 34 ans. Donc, plus si petite que ça. Et qu'à l'époque, ça nous avait valu le passeport russe de la part du président Yeltsin. Hein. Donc, ça fait déjà 25 ans, plus 27 ans ou 28 ans qu'on a le passeport. Mais ça n'a rien à voir avec Poutine. Il aurait pu le faire aussi, mais ça s'est passé comme ça.
C'était dû à la à
Voilà.
l'adoption.
Puis à l'époque, on pouvait faire. Il y avait des lois qui permettaient ça, la double nationalité, enfin, etc. Et puis je l'ai reçu parce qu'il y avait personne qui, il y avait aucun occidental qui demandait le passeport russe à cette époque. Puis ça avait surpris les Russes qui dit bon, ben, c'est parfaitement légal, c'est
Oui.
sympa, donc on vous voilà,
Puisqu'effectivement, je
allez-y
trouve que
quoi.
c'est valorisant aussi,
Voilà.
au vu, ma sœur est aussi adoptée, elle est née à Calcutta, en Inde.
Ouais.
Et du coup, j'admire les parents, et notamment les miens, qui, comme ça, prennent sous leur aile la vie d'une ou
Ouais.
d'un enfant.
Voilà. Cela étant dit,
Étant
effectivement, ça m'a
parenthèse.
permis de bien connaître la Russie. J'ai été, je ne sais pas, 80, 90 fois en 25 ans, ces dernières années. Et pour répondre à votre question, je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu une espèce de troc ou une espèce de deal, genre, vous me laissez l'Iran ou le Moyen-Orient, puis je te laisse l'Ukraine. Je ne crois pas à ça parce que je pense que c'est pas dans l'intérêt russe. Alors, il y avait peut-être un espoir du côté des Occidentaux de faire ce genre de troc, mais à mon avis, les Russes ont pas donné. Ils peuvent pas tout ça. Enfin, ce serait complètement contre-productif. Il y avait eu un espoir aussi de la part de Trump de faire la paix avec la Russie pour détacher la Russie de la Chine. C'est un objectif pour faire, pour refaire ce que Nixon et Kissinger avaient fait contre l'Union soviétique dans les années 70 pour détacher la Chine de l'Union soviétique et casser le bloc communiste, le séparer. Donc de faire une espèce d'alliance de revers comme ça, le même coup mais à l'envers, quoi. Moi, je ne crois pas trop à ce scénario. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire, l'Eurasie est pratiquement unifiée. Puis que les Américains sont partis d'Afghanistan, c'est la première fois depuis au moins 1000 ans, depuis Jean Giscan, que le continent eurasiatique se retrouve pratiquement, on va dire, en main on va dire, de gouvernements compatibles, où il n'y a plus au fond de semeur de troubles, soit britanniques ou qu'ils soient américains, avec le départ des Américains d'Afghanistan. C'est inédit dans l'histoire. Donc pour la Chine, première intéressée, mais aussi pour la Russie, c'est une occasion inespérée de pouvoir construire ou de pouvoir intégrer le continent eurasiatique qui ne s'est jamais produite avant, d'où les routes de la soie, etc. Et l'Iran est une pièce maîtresse de ce dispositif, au moins plus important que l'Afghanistan encore, du fait de sa capacité, du fait des 100 millions d'habitants, du fait que le pivot stratégique géopolitique, c'est capital pour les axes nord-sud, est-ouest, enfin, etc. Donc perdre cet actif-là, c'est juste insensé. Alors après, il peut y avoir toutes sortes de jeux, de petites concurrences internes, de petites rivalités historiques, tout ça, bien entendu. Mais tu ne sacrifies pas, je sais pas, une reine pour un hypothétique accord en Ukraine dont on sait qu'on ne peut absolument pas faire confiance. On a
Et
vu avec
surtout
Trump,
ça.
il engage des négociations avec l'Iran puis il bombarde le lendemain. C'est la même chose en Ukraine. J'ai discuté, j'ai quelques amis quand même. Je veux dire, le problème des Russes, c'est de savoir comment on fait confiance
Non, on ne peut
à
pas.
Trump et aux Américains. D'un côté, ben, on ne peut pas rater cette opportunité, donc c'est logique d'entrer en matière. De l'autre, on ne sait pas si on peut vraiment faire confiance. On ne sait même pas le jour où il signe, s'il ne sera pas déchiré le lendemain. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que ces négociations dureront des semaines, des
Oui.
mois.
Et même quand c'est signé avec les accords de
Et même
Minsk, on
avec
voit
les
bien
armes.
ce que ça
Exactement.
donne.
Donc, voilà, moi je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge en Ukraine. Je pense que les Russes préféreront avoir quelque chose de solide, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'ils veulent, mais de solide, plutôt que de risquer puis de perdre un élément essentiel, se mettre à dos l'Iran ou d'avoir un changement de régime en Iran qui ferait revenir, qui ferait perdre tout ce qu'ils ont essayé de construire depuis 20 ans, tout ce que la Chine aussi essaie de mettre en place. en perdant cet élément, cette partie de ce pivot essentiel qu'est l'Iran. Donc, je ne crois pas trop à ce deal. Je pense plutôt que. Alors, on va essayer de. Et puis là, la Russie, bon, j'ai visité Donbass l'année passée. Là, on m'a invité à Koursk, mais je n'ai pas eu le temps d'y aller. Je pense que la Russie mise plutôt sur. Il faut savoir aussi que tant les Russes que les Chinois ont une autre notion du temps que nous.
Clairement.
Et donc, pour eux. Quelques années de guerre. Pour nous, c'est insupportable parce qu'il faut un résultat. C'est Trump, il faut faire régler tout ça en 24 heures. C'est juste insensé. Eux voient beaucoup plus sur la distance. Ils ont une autre notion de l'espace,
Aussi.
des territoires. Ils ont une autre notion du temps. On n'arrive pas à le comprendre chez nous. Bon,
On
ben c'est
n'essaye
notre.
même pas.
Ouais. Mais pour moi, en Ukraine, mieux vaut aller gentiment, tranquillement. Jusqu'à ce que les autres finissent par s'épuiser, puis qu'on trouve un arrangement qui tienne.
C'est le plus probable, mais en même temps c'est
C'est
tragique, puisque tous les jours il y a des morts, il y a des drames.
infiniment tragique, évidemment. C'est infiniment tragique, mais les premiers, enfin, ceux qui payent la note, c'est les Ukrainiens, hein.
C'est clair.
C'est eux pour.
Jusqu'au dernier Ukrainien, disait le président mexicain il y a quelques années.
Voilà.
Et il avait raison. Et la Suisse dans tout ça? Donc vous faites de la politique à Genève, bon, au niveau communal, mais la
Oui, ben.
neutralité suisse, on le sait, on l'a répété souvent, a pris un sacré coup. On appelle tous à la démission de Kassy. Les doubles standards sont de plus en plus évidents. Par exemple, parce qu'on a sanctionné la Russie comme aucun autre pays. Je crois qu'on est le
Oh.
pays qui sanctionne le plus la Russie, alors qu'on a mis zéro, littéralement zéro, sanction à Israël. Et ça, c'est évidemment plus tenable. Mais le problème, c'est que la place politique suisse, elle existait que à travers son espace, je dirais,
Oui,
de
ben pour moi,
diplomatie et de
cinq.
parole.
Pour moi, c'est
C'est
un
un crime.
crève-cœur. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est un crève-cœur. Je trouve insensé ce comportement, enfin, cette démission et cette lâcheté que la Suisse a montré en 2022 en adoptant du jour au lendemain, en 48 heures,
Tous les paquets.
lançant tous les paquets, le premier paquet de sanctions et tous les suivants. Et donc, au fond, en renonçant à son. À 200 ans de tradition historique de neutralité d'une part, et puis à au moins, enfin oui, 100 ans, on va dire, de tradition de médiation,
On est d'accord.
d'offres de médiation. Ah, c'est juste. Oui, et puis ça a même mis en péril nos capacités humanitaires. Si la Croix-Rouge, le CICR tient, c'est grâce à notre. Neutralité, enfin notre image de neutralité qu'elle essaie d'appliquer pour elle. Mais le fait que la Suisse l'ait perdue ou galvaudée, ça a aussi un impact sur le CICR. Donc tout ça est fortement dommageable, fortement regrettable. J'espère que les Suisses, dans un sursaut de raison, de retour à la raison, voteront l'initiative sur la neutralité et qu'on reviendra. À une neutralité plus conforme à notre tradition. Elle n'a jamais été parfaite, hein, on est bien
Bien
d'accord.
sûr.
Elle n'a jamais été. Mais enfin, on retrouve notre crédit international par ce biais-là. Sinon, bon, voilà, on sera les larbins de X, Y, de tel.
Comme
Enfin,
les autres.
comme les autres. Mais enfin, ce n'est pas très glorieux ni très exaltant.
Y mettant, merci infiniment pour la sollicitude et le temps offert à cette chaîne. Sachez que vous serez toujours le bienvenu là. C'est la première fois, j'avais
Merci à
commencé en
vous.
2019, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois en tout cas. Tout de bon pour la suite. Bravo pour le courage et pour ces voix indépendantes que le journaliste que vous êtes porte. En tout cas, ça fait du bien et ça nous permet de respirer. Merci
Merci
beaucoup.
à vous, merci pour l'invitation, puis au plaisir de se retrouver.
À la prochaine.
À la prochaine.
Ciao!